Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Poste. Je suis Hélène Ascourt, vous êtes dans Écoloscope, l'émission mensuelle consacrée aux questions écologiques. Il est 9h, il fait déjà très chaud ici. Si vous voulez nous financer une clim, vous pouvez... Non, je plaisante, c'est pas pour financer une clim. Mais par contre, n'hésitez pas pour nous soutenir à vous abonner au Poste. Vous allez sur opost.media et c'est beaucoup mieux qu'une clim. C'est pour qu'on fasse, qu'on continue nos émissions en toute indépendance, en direct, en longueur, avec des super invités. C'est la dernière cette saison pour Écoloscope. On se retrouvera à la rentrée. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit don si vous en avez la possibilité. Bonjour. Voilà, c'est la chaleur qui commence déjà à monter, je ne sais plus parler. Bonjour à toutes et tous dans le chat. Bonjour Citissus, Coparius, Ronan, Guenou, Anoukis, 422, La Belle Hélène, Piscopate. Bonjour Eurial, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que ça va, vous arrivez un peu à trouver un peu de fraîcheur et un peu de solidarité dans ces moments.
Un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images.
Ici, on parle d'écologie, comme j'ai dit, et souvent, quand on pense écologie, on pense à protection de la nature. On pense que l'écologie, c'est protéger la nature. Et donc, il y a même des ONG dont c'est spécifiquement le travail, par exemple le WWF, le World Wildlife Foundation, qui crée même, qui gère des aires protégées, donc des aires où les activités humaines sont interdites pour protéger la nature sauvage. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on cherche à protéger la nature ? Et d'ailleurs, qui protège la nature ? Et qui protège la nature de qui ? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière ces histoires de protection de la nature ? Est-ce que les ONG sont les mieux placées pour faire ça ? À qui est-ce que ça profite ? On va en parler avec Fiore Longo. Bonjour.
Bonjour.
Peut-être que j'ai mal prononcé ton prénom.
Non, très bien, très bien.
Donc, tu es anthropologue et directrice de Survival International France. Tu vas parler un petit peu de ce que c'est. Et tu es aussi l'autrice donc, de « Décolonisons la protection de la nature, plaidoyer pour les peuples autochtones et l'environnement ». Alors, on va commencer par un petit point d'actualité, puisque fin avril, il y a eu une actualité justement sur le WWF. C'est la directrice de WWF France qui a été contrainte à démissionner. Elle avait participé à une manifestation antiraciste à l'appel de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Et elle en avait parlé, elle avait mis des photos sur son compte LinkedIn, donc son compte sur un réseau social professionnel, où il était indiqué qu'elle était directrice de WWF France. Et donc, le conseil d'administration de l'organisation a estimé que l'association devait rester apolitique et c'est pour ça qu'elle a été poussée vers la porte. Ça a créé un petit scandale, puisque tout le monde était un petit peu choqué qu'elle puisse avoir été contrainte à démissionner parce qu'elle s'était affichée dans une manifestation antiraciste. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé ?
Alors, moi, j'étais pas surprise du tout, en sachant que. Comme nous, on les dénonce depuis des années, il y a des pratiques des protections de la nature de WWF International en particulier, qui on peut qualifier très bien comme des racistes envers les populations locales. Dans le sens que l'entier modèle des protections de la nature que les WWF défendent, c'est un modèle de protection de la nature basé sur des idées racistes. La population locale, notamment, surtout dans les continents africains et asiatiques, et considérer les problèmes à gérer, les problèmes, leurs pratiques qui sont considérées nuisibles à la nature. Et donc, depuis des années, nous dénonçons un modèle raciste des protections de la nature. Et donc, moi, je n'étais pas surprise du tout de ces nouvelles. La chose qui, pour moi, c'est plus étonnant, c'est comment le conseil d'administration a défendu cette décision en disant que les WWF est apolitique. Moi, ça m'a choqué parce que bon, il n'y a rien d'apolitique en général. Donc, tout ce que nous faisons, c'est de la politique ou est quand même imbriqué dans des idées politiques. Mais en général, les WWF, on ne peut pas dire que c'est apolitique du tout. Hein. Si on regarde les directeurs qui sont même en France, je ne parle pas seulement international, qui est dans les conseils d'administration qui est dans la direction, on voit très bien les liens entre cette grande ONG et les pouvoirs politiques et les pouvoirs des multinationales.
La directrice. Oui,
c'était pas directrice, je pense que c'était la présidente. Mais je voulais pas dire ça. Je voulais dire l'ancien président du WWF International. C'était un ancien PDG de Coca-Cola. C'était la même chose dans les années 70-80. L'ancien président du WWF International était l'ancien PDG d'Echel. Et c'est la même chose WWF France. On avait un directeur qui était ministre et maintenant eurodéputé. On va dire que il n'y a pas vraiment des comportements apolitiques à être en lien avec des multinationales, à être en lien avec des pouvoirs politiques. Et aussi parce que c'est très, 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 très vraiment politique, la choix du modèle de protection de la nature. C'est un modèle de protection de la nature dans lequel on se concentre sur la protection, soi-disant protection, on va en parler plus, de certains aires naturelles pour leur biodiversité, en lâchant des côtés la critique au modèle économique qui est en train de produire la catastrophe climatique et des biodiversités dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Ouais, on va développer un petit peu tout ça. Ouais. Mais déjà, voilà, qu'est-ce que c'est exactement le WWF? Qu'est-ce qu'ils font? Et de manière générale, toutes ces ONG de protection de la nature, parce qu'il n'y a pas que le WWF, quelles sont leurs actions?
Oui, alors il faut distinguer, je vais juste faire une petite distinction. Donc quand je parle des grandes ONG de protection de la nature, je ne parle pas des petites ONG qui s'occupent de la protection de la biodiversité, qui travaillent avec des communautés locales. Donc je parle en général des 100 grandes ONG de protection de la nature, qui c'est des WWF, African Parks, the Wildlife Conservation Society, Conservation International and the Nature Conservancy, et des autres grandes ONG qui sont plutôt des multinationales. Nous, on parle de l'industrie de la conservation, donc qui gère des millions d'euros, qui sont structurées comme des multinationales et qui en fait profitent aussi de la soi-disant protection de la nature. Donc, c'est les classiques ONG auxquelles Bezos va donner 100 millions de dollars en don. Donc, ces ONG sont aujourd'hui héritières d'un modèle colonial de protection de la nature. Donc, ils co-gèrent ou gèrent directement, selon l'ONG, des déserts protégés, soi-disant déserts protégés, en Asie et en Afrique, mais aussi aujourd'hui on a de plus en plus de cas en Amérique latine, dans laquelle la population locale est interdite d'entrer à leurs terres ancestrales, et aujourd'hui devenu parc, et ces grandes ONG avec les gouvernements, notamment peut être du Congo, du Cameroun. Il aide à la co-gestion de l'air, donc au salaire, par exemple, contribue au salaire des gardes du parc. Ils vont faire des demandes auprès des bailleurs du fonds du Nord, les gouvernements allemands, les gouvernements français, pour obtenir des fonds pour pouvoir gérer. Donc, en théorie, ça a l'air d'être super bien, mais si on voit comment les modèles marchent, ce qu'on voit, c'est que dans les terrains, les populations locales, notamment les peuples autochtones, donc avec lesquels mon association travaille, ils sont expulsés de leurs terres, donc ils sont accusés de chasser, de faire du braconnage, de faire paître leurs vaches en manière nuisible à l'environnement. Donc ils sont accusés d'être la cause de la destruction de l'environnement, et donc ils sont expulsés, mais pas seulement. Les gardes du parc gérés et co-gérés par ces grandes ONG, les tortures, les viols, les frappes, tout ça au nom de la protection de la nature.
Et alors, tu parles de peuples autochtones, hein. Toi, tu es directrice donc, de Survival International France, qui défend les droits des peuples autochtones. Qu'est-ce que c'est un peuple autochtone?
Oui, avant tout, je vais expliquer que nous, Survival International, c'est une ONG qui plutôt s'est décrit elle-même comme mouvement. Dans le sens que nous, ce que nous voulons obtenir, c'est vraiment un changement des mentalités, de la manière dans laquelle les gens, comme tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, pense aux peuples autochtones. Les peuples autochtones, ils ne sont pas issus du passé, ils sont des contemporains comme nous. Leur mode de vie, ils sont en train d'être aujourd'hui, on les voit très bien, beaucoup plus respectueux de l'environnement que notre mode de vie. Ils sont des sociétés contemporaines et leurs droits doivent être respectés. Et notre travail à nous, c'est de montrer tout ça, documenter des violations des droits de l'homme et créer un changement dans l'opinion publique pour lutter ensemble contre le racisme envers ces peuples. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par peuple autochtone ? Il y a quand même beaucoup d'idées, des définitions. Nous, on est liés plutôt à les critères qui ont été apportés par la Convention 169 de l'Organisation mondiale du travail et qui sont des critères pour les identifier, pas pour les définir, qui sont une autre chose. Et en général, on peut dire qu'il s'agit des peuples qui étaient dans un territoire avant la colonisation ou la conquête, qui se définit et qui s'y voit eux-mêmes comme autochtones, donc les critères de l'auto-identification, c'est très important, mais aussi, pour nous, un des critères les plus fondamentaux, c'est aussi les liens à la terre. Donc il s'agit des peuples, qui bien sûr, ils ont des caractéristiques économiques, religieuses, sociétales, différentes par rapport à la société majoritaire, mais une des caractéristiques la plus importante, c'est cet attachement tellement profond à la terre. Et ça, c'est pas une romantisation, c'est pas une invention. Moi, ça, c'est mon travail, j'ai visité des communautés autochtones et documents des violations depuis 10 ans. Et une chose que je remarque énormément, c'est ces liens à la terre tellement vital. La terre, c'est pas seulement un endroit pour, oui, pour se nourrir, même si, bien sûr, ils prennent de la terre, de l'environnement, tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Mais c'est aussi leur église, leur pharmacie, c'est tout. Donc, c'est l'endroit où ils vont apprendre à leurs enfants. C'est l'endroit où ils prennent toutes leurs plantes médicinales, donc leur pharmacie. C'est l'endroit où ils vont faire des rituels sacrés. Il y a un lien vital à la terre. Donc, les pires crimes contre les peuples autochtones, c'est de les expulser de leur terre, de les enlever de leur terre. Et ça arrive pas seulement au nom des... c'est pas seulement Shell pour faire des puits de pétrole, c'est pas seulement les grandes multinationales, les industries minières. En fait, on les vole la terre aussi au nom de la protection de la nature. WWF aussi est responsable aujourd'hui du vol des terres des peuples autochtones.
Alors comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'il y a une aire qui est identifiée par exemple par WWF comme devant être protégée. Et ensuite, comment on fait pour expulser les gens qui habitent là en fait?
Oui, c'est pas tous les temps dans la même manière. Donc je vais dire en ligne générale, en sachant que j'ai fait une simplification bien sûr. En général, ce qui se passe est que bon, c'est pas ça va pas être surprenant, mais les endroits de notre planète où il y a plus de biodiversité, c'est des endroits où il y a des peuples autochtones. Bien sûr, parce que comme j'ai expliqué, leur mode de vie, ils sont totalement en général. Basé sur une idée de réciprocité, on prend de la nature, mais on donne des soutenabilités, donc c'est pas surprenant. Donc déjà, on sait très bien que ces endroits, ils sont souvent dans les terres des peuples autochtones et souvent dans les sud du monde. Donc ce qui arrive en général, c'est qu'une ONG avec des soutiens de l'Union européenne, des grands bailleurs de fonds, de l'Agence française de développement, ils vont identifier ces endroits où il y a beaucoup de biodiversité. Souvent basé sur une espèce charismatique, donc je ne sais pas, les gorilles, ils vont faire de la pression au gouvernement, notamment, je ne sais pas, du Congo, pour obtenir la démarcation de cette terre en tant qu'aire protégée. Alors, déjà, ça, pour beaucoup de personnes, ça peut être super. Et le problème, c'est qu'à la place de dire, bon, dans cet endroit particulier, donc, il y a des gorilles, mais il y a aussi des communautés autochtones, donc on va essayer de faire de la pression au gouvernement du Congo pour démarquer la terre en tant que terre autochtone, pour pouvoir donc laisser les peuples autochtones à gérer leur propre territoire. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une description de l'endroit comme s'il n'y avait personne, donc la forêt vierge, sauvage, intacte, ou s'il y a des communautés autochtones et leur présence est pas possible de cacher. On dit, ben, il y a l'espace et les vierges sauvages intactes, mais il est menacé par les communautés autochtones. Donc, c'est ce type de description. Et moi, j'ai lu beaucoup de projets écrits par les WWF, envoyés à la Commission européenne pour le financement. C'est ça, les types de descriptions qu'ils font. La Commission européenne, par exemple, une fois, dans son réunion à Bruxelles, j'ai lui expliqué aux fonctionnaires européens qui étaient là, regardez la forêt que vous voulez protéger. Elle n'est pas vide, elle n'est pas intacte, il y a des communautés autochtones. Ah bah, ils ne savaient pas. Donc, la description de ces endroits comme intacts, sauvages, est très importante. La description des menaces aussi est très importante. Donc, il faut faire beaucoup attention au langage. La conservation, l'industrie de la conservation, comme elle est aujourd'hui, donc raciste et colonialiste, est surtout basée dans les langages et dans l'imaginaire de la nature, qui on pense être scientifique, naturel, objectif, mais qui s'est très politisé.
Oui, tu parles de ça d'ailleurs dans ton livre, tu parles de ce mythe de la nature sauvage, et tu dis que ça n'existe pas en fait, pourtant c'est très très présent dans nos têtes.
Oui, la nature sauvage comme elle l'entend aujourd'hui. Donc, il y a toujours dans les êtres humains l'idée d'une nature dans laquelle d'un espace dans lequel il n'y a pas des qui c'est moins je veux dire qui c'est extérieur aux êtres humains. Donc c'est pas dans toutes les cultures que ça existe, mais on va dire que dans la culture occidentale, c'est surtout à partir des 17e siècle, donc l'époque plutôt moderne, on dirait, qu'on commence à développer une idée d'une nature séparée de nous. Donc c'est important de le dire. Chez les peuples autochtones, pas tous, mais je généralise bien sûr, la majorité des peuples autochtones n'ont pas un mot pour dire nature. Donc il y a un continuum, c'est un espace de relation. Nous et les autres, les êtres non humains, ils ne sont pas des choses opposées. Donc cette opposition, la nature, les êtres humains, nature, culture, c'est vraiment issu de l'époque moderne. Donc pour les peuples autochtones, plusieurs peuples autochtones avec lesquels j'étais en contact, les tigres, par exemple, un exemple, peut être un membre de la famille. Donc, vous comprenez, cette séparation, elle n'est pas si évidente. Donc, déjà, notre idée des natures, donc, c'est vraiment spécial, et elle est née d'une culture qui a détruit. Donc, plus, et c'est souvent ce concept des natures séparées de nous, vraiment, c'est développé plutôt dans l'époque industrielle. Donc, plus on détruit, plus les élites urbaines qui habitent dans des villes et ils ont besoin de chercher des espaces qui ne sont pas industrialisés. Donc, on va les dire comme ça. Et c'est surtout dans l'époque du romanticisme, donc à l'époque de la première et deuxième révolution industrielle, surtout la deuxième, qu'on trouve cette nécessité d'imaginer, de vouloir des espaces qui ne sont pas pollués, qui ne sont pas détruits, qui ne sont pas industrialisés. Ces rêves des natures sauvages, différents par rapport à l'industrialisation, viennent des élites urbaines, qu'elles vont chercher ces rêves des natures sauvages ailleurs. Et c'est là surtout que la vision des natures sauvages, comme on l'entend aujourd'hui, donc il y a beaucoup de définitions, mais comme on l'entend aujourd'hui, donc un espace totalement déprivé des personnes, donc totalement différent des humains, il est né aux États-Unis à la fin du 19e siècle. En ligne générale, donc on peut dire beaucoup de choses, mais je suis en train de généraliser. Et donc c'est là-bas qu'est né les premiers parcs naturels. L'idée de prendre, de sanctuariser cette nature soi-disant sauvage, ces espaces magnifiques, beaux, esthétiques à voir, pour les protéger, pour les laisser séparer et pour pouvoir aller voir. Or, ce que j'explique dans mon livre, c'est que ces concepts des natures sauvages, comme quelque chose à voir, esthétique, séparé, c'est une invention. Parce que si on regarde qui habitait dans ces soi-disant premiers parcs naturels aux États-Unis, donc Yellowstone, Yosemite, Glacier, tout né à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ces endroits, c'était pas vide. Il y avait des peuples autochtones qui sont pas seulement, et ça c'est la chose que je tiens à dire, ils habitaient pas seulement là-bas, donc c'était pas, ils habitaient là-bas et bon, ils ont façonné ces natures. La nature, elle n'est pas sauvage. il est habité, c'est un espace de relation, comme les peuples autochtones eux-mêmes, ils diraient. C'est un espace, un écosystème qui a été façonné par des peuples autochtones pendant des générations. Et c'est pas seulement aux États-Unis. Donc, quand on regarde l'Amazonie, tout le monde dit « Ah, la nature sauvage, on va aller dans la forêt ». L'Amazonie, c'est un endroit où des preuves archéologiques, scientifiques montrent que c'est un espace habité, qui a été façonné par des peuples autochtones. Donc, l'idée des natures sauvages comme était conçue aux États-Unis à la fin du 19e siècle, c'est un rêve des hommes blancs et urbains qui n'étaient pas en contact avec la nature, qui n'habitaient pas la nature, mais ils allaient là-bas en tant que touristes à la regarder. Et c'est cette vision qui a dominé aujourd'hui notre modèle de conservation, au point qu'on continue à aller en vacances aujourd'hui même à des endroits pour voir la nature sauvage. L'idée du safari, aussi avec des origines coloniales, c'est aussi une manière de contribuer à ça. On va en Afrique, c'est vraiment pas l'Afrique, souvent, mais on l'appelle l'Afrique. C'est une partie, c'est un pays. Donc, on va en Tanzanie, au Kenya, à regarder des animaux sauvages dans des espaces qui sont vraiment fabriqués. Les peuples autochtones qui habitaient là-bas, ils ont été expulsés pour donner aux touristes l'expérience d'une nature sauvage qui n'existe pas.
Il y a des réflexions dans le chat à propos de ça, de ce binarisme nature-culture. Il y a Tmorophile qui dit que c'est déjà présent à l'époque romaine. Et il y a Philippe Descola aussi qui est cité. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence. Il a écrit un livre qui s'appelle « La nature n'existe pas ». Il parle beaucoup de ça et de comment, en fait, c'est des liens affectifs. Tu en as parlé avec les autres espèces, qui est très différent de notre expérience occidentale contemporaine. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que c'est très grave de priver ces peuples autochtones de contact avec leur milieu, leur territoire, parce que c'est pas juste un endroit où ils habitent, mais c'est des liens affectifs.
Oui. Et avec, juste pour répondre, Philippe Descola, c'est un des grands anthropologues français qui a développé cette idée de la nature, de l'opposition nature-culture comme partie de l'histoire moderne. Mais je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a écrit que ça existait aussi dans l'époque romane. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, il y a, dans différentes cultures, civilisations, comme vous les appelez, il y a eu toujours... dans notre société occidentale, une idée de il y a quelque chose qui est humain, peuplé. On l'appelle, mais je ne suis pas d'accord avec cette définition, mais quelque chose de civilisé et le reste, qui est sauvage, mystérieux. Mais à partir de l'époque industrielle, il y a quelque chose qui est bouche. Donc, la nature, ce n'est pas seulement quelque chose de séparé de nous, donc un espace qu'on ne connaît pas et qui n'est pas habité par les hommes, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut compter, qu'on peut, si on regarde les écrits de Galiléo Galilei, par exemple, on voit très bien, la nature, c'est un livre dans lequel on peut lire, on peut appliquer notre connaissance. Donc, petit à petit, et à cause de la pensée et aussi des changements produits par l'industrialisation, on a quelque chose qui se casse, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, entre nous et la nature. Il ne faut pas oublier aussi que c'est les années l'époque moderne où commencent les expulsions, je ne sais pas comment dire en français, les enclosures, donc les expulsions des paysans. Surtout en Angleterre, mais il y a eu aussi en France, pour privatiser des espaces. Et toutes ces personnes finissent pour travailler dans les usines plus tard, nourrissant la révolution industrielle qui avait besoin des forces de travail. Et ça aussi crée une rupture avec l'espace de la nature. Donc, je pense que si on compare avec les peuples autochtones, c'est vraiment très, très clair pour moi, parce que la chose que je remarque beaucoup quand je vais chez les communautés autochtones, c'est vraiment, déjà par exemple les Baka, donc sont des populations des chasseurs-cueilleurs avec lesquels je travaille depuis des années au Congo et au Cameroun, ils n'ont pas un mot pour dire conservation, protection de la nature. Ça n'a pas de sens, parce qu'ils ne vont pas se dire, et la nature c'est quelque chose de séparé, et du coup il faut la protéger d'un côté, et nous on fait notre vie de l'autre côté. En fait, c'est leur relation avec la nature et en relation, j'utilise les mots que nous on utilise, la nature, eux ils diraient la forêt, il n'y a pas des mots pour dire nature. Donc leur relation avec la forêt, c'est une relation basée, pas dans l'esthétique, on ne va pas la regarder ou la visiter, c'est une relation basée dans l'interchange. Donc ils vont prendre quelque chose de la nature parce qu'ils ont besoin pour leur enfant, pour nourrir, pour se nourrir, les miels par exemple, et ils vont remercier la nature, ils vont donner quelque chose. Donc c'est la réciprocité. Et l'idée en soi d'utiliser les ressources de la nature, elle est toujours liée au concept de soutenable. Donc on ne va jamais épuiser les ressources parce que nos générations futures, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment... Cette rupture nature-culture, c'est pas vraiment seulement de l'abstraction. Je la vois très bien par opposition aux peuples autochtones. Donc, les concepts vivre dans la terre, c'est pas basé sur cette division et cette rupture, les autres et nous. Et par exemple, les Maasai, c'est un autre peuple avec lequel je travaille, c'est une société pastorale. Eux, ils ont un endroit à l'intérieur de leur maison pour faire vivre les veaux, les petites vaches, parce que bon, la nuit c'est dangereux, il y a des lions, donc il peut. Et du coup, ils dorment à côté, ils dorment avec les animaux. Il y a vraiment l'idée que c'est une partie de la famille. Donc vraiment, cet attachement à la terre est viscéral. Et ça, c'est une chose pour laquelle je pense que c'est très important de comprendre que quand on les expulse de leur terre, on vole leur terre, c'est vraiment un crime contre eux, contre les peuples autochtones en tant que peuple. Donc il y a quelque chose qui se passe, que c'est très très dur aussi à transmettre avec des mots. Mais quand j'ai fait des interviews avec des personnes qui ont été victimes des expulsions, ce que je remarque, c'est qu'il y a une violence inexplicable. Des fois... Des fois, quand on fait des interviews, il y a une violence physique extrême. Les gardes du parc, comme j'ai expliqué, ils violent les peuples autochtones, ils les torturent. Et du coup, ça fait l'une des journaux, souvent. Mais il y a une autre violence plus cachée, invisible, qui c'est les vols des terres. Donc les gens, ils disent « Ah oui, elle était expulsée ». Mais c'est vraiment un crime terrible contre eux, parce que à cause de ce lien avec la terre. Donc, c'est la perte de leur identité en tant que peuple, voler la terre. C'est vraiment la perte de quelque chose qui est vraiment très lié à qui ils sont. Et donc, on voit souvent, quand les peuples autochtones ont été expulsés, qu'il y a beaucoup plus d'alcoolisme, qu'il y a beaucoup plus de malnutrition, des suicides, des morts, parce qu'à cause de ce lien vraiment très, très viscéral avec la terre.
Et tu parlais de l'histoire un peu des parcs et leur naissance aux États-Unis. Et au départ, quand c'est créé, c'est pour protéger ces endroits de qui et de quoi ?
Oui, les premiers parcs, comme je disais, nés à Yosemite et Yellowstone après, c'est un parc qui était né pour protéger il y a la théorie et la pratique. C'est protéger ces espaces considérés beauté sauvage, beauté nature sauvage. Et l'idée, c'était il faut les laisser intacts dans un pays dans lequel il y avait beaucoup d'industrialisation. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, il y avait aussi la guerre aux États-Unis pour expulser les populations autochtones, la soi-disant frontière, les mythes de la frontière. Donc il y avait une invasion des colons qui poussaient la frontière de l'autre côté contre les peuples autochtones. Et donc l'idée, c'était à un certain point, l'industrialisation va arriver et il faut protéger ces espaces. Mais en théorie et en pratique, ces endroits ont été transformés dans l'industrie du tourisme. Donc, les personnes qui sont payées sont les peuples autochtones qui ont été expulsés, qui ont été accusés de détruire l'environnement. Et les touristes des milieux urbains qui payaient pouvaient entrer. Et donc, à l'intérieur de ces parcs, et si vous n'allez jamais, il y a l'illusion d'une nature sauvage, mais il y a des structures pour les touristes à l'intérieur. Donc, ça, c'est les premiers parcs. Après, c'est ces modèles particuliers, donc des parcs qui est né aux États-Unis. Donc avant, on ne faisait pas des parcs. qui étaient après exportés pendant la colonisation de la fin du 19e siècle en Afrique. Donc les Européens vont construire au début des réserves de chasse parce que la majorité des Européens, des colonialistes, y chassaient. Et donc, ils étaient inquiets de ne pas avoir assez de proies parce que la population locale chassait aussi. Donc, ils créent des réserves de chasse pour chasser des animaux. Donc, ça, c'est les premiers parcs naturels. Ensuite, ces parcs ont été transformés après en parcs dans lesquels, dans certains, la chasse était possible, régulée. Dans certains autres, la chasse n'était pas possible, mais les parcs étaient là pour le tourisme et la recherche scientifique. Ces parcs ont été construits contre la population autochtone. Et là, c'est vraiment très clair. L'idée des bases des Européens, c'est on est fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on a le racisme scientifique en Europe. Ces populations-là, que les Européens rencontrent en Afrique et en Asie pendant leur colonisation, c'est des arrières, c'est vraiment des visions racistes. C'est des personnes qui ne savent rien. Donc, il faut construire des parcs pour protéger les animaux sauvages qui sont, pour les Européens, considérés d'un point de vue esthétique, très beaux et aussi très bien à chasser. Donc ça, c'est vraiment très, très, très présent. La chasse, donc ça nous semble étonnant, mais la chasse était la raison fondamentale, essentielle de la création des parcs au début. Et donc, les Européens, ils pensent, ces populations-là, ils vont à rien. Et du coup, il ne faut absolument pas les laisser dans leur espace parce qu'ils vont tous abîmer. Tout abîmer. Ils croient vraiment que les sociétés pastorales, donc ils font paître leurs moutons, leurs vaches, vont totalement abîmer les sols. Et il commence à se développer plusieurs mythes. Les mythes dans certains endroits de la forêt, qui une fois étaient forêts, mais maintenant est désert à cause des peuples autochtones. Par exemple, dans le nord d'Afrique, les Européens croyaient qu'avant c'était une forêt, maintenant il y avait plus parce que les peuples autochtones ils avaient tout abîmé. Et les mythes des peuples autochtones chasseurs, cueilleurs, qu'ils vont chasser tous les éléphants, en sachant que la cause principale du déclin des éléphants pendant la colonisation étaient les colonisateurs eux-mêmes qui chassaient, et aussi les marchés de l'ivoire en Europe. Donc, tous les modèles de protection de la nature qui est né au colonialisme est basé sur une idée raciste. La population locale va tout abîmer, il faut nous, les Européens, pour protéger. Ces modèles continuent à exister aujourd'hui.
Oui, il y a Charne qui dit qu'ils projettent, donc les Européens, ce qu'ils font eux-mêmes pour justifier l'expulsion des peuples autochtones. En fait.
Oui.
Il n'y a pas de réflexion à ce moment-là sur, nous aussi on chasse, nous aussi, ou même l'industrialisation, il n'y a pas de critique de l'industrialisation à ce moment-là.
Et non, pas alors certainement il y avait beaucoup de philosophes et aussi issus du marxisme qu'ils disaient ça, mais et il y avait au début dans les premières écologistes aussi un peu avant dans les premières colonisations qu'ils réfléchissaient sur ça, donc c'est pas qu'il y avait personne, mais la pensée dominante était ça. Et c'est pas très étonnant parce que si on lit avec les problèmes de racisme, c'est la naturalisation. C'est qu'on pense que c'est naturel. Donc, des pensées, que les choses qu'on pense sont, il s'agit des choses qui sont naturelles, scientifiques. Ça, c'est les grands dangers du racisme. Parce que si on les reconnaissait comme racistes, donc un comportement, c'est raciste, c'est clair, c'est pas bien. Mais souvent, nos visions racistes, ils sont considérés pas racistes, ils sont considérés normales, naturelles. Donc, à l'époque, c'était totalement normal et naturel. Penser que la chasse des Européens blancs était bien parce qu'elle était rationnelle. Ça, c'est des mots vraiment de l'époque. Elle était rationnelle. Elle était exportée. Par contre, les peuples autochtones, ils chassaient pour leur... C'est irrationnel. C'était basé sur leurs besoins physiques. Et c'était totalement cruel, irrationnel, parce qu'ils chassaient avec, chassaient pas avec des fusils, ils chassaient avec des flèches. Donc la vision de ces projections qui sont totalement racistes étaient considérées comme scientifiques, comme neutrales, comme apolitiques. Et j'explique tout ça parce qu'on continue à dire la même chose aujourd'hui. Et donc c'était tout à fait normal de penser ça. Et ça, c'est les problèmes pour moi plus dangereux du racisme, c'est comme ça qu'il s'est reproduit. Parce qu'aujourd'hui, tout ça n'était pas remis en cause. Et du coup, on continue dans des autres manières Mais aujourd'hui encore, il y a la chasse aux trophées, que c'est continue à faire dans plusieurs endroits, plusieurs aires protégées en Tanzanie, au Cameroun. Et des fois, soutenus par ces grandes organisations de protection de la nature, beaucoup des présidents du WWF, ils étaient des grands chasseurs. Et du coup, sa chasse, elle est totalement bien vue. Et la chasse des bacas, qui chasse l'éléphant pour des raisons rituelles, pour les manger, avec un respect énorme pour les éléphants. Les bacas, ils sont 27 noms aujourd'hui connus par nous, les Occidentaux, pour appeler les éléphants, pour les nommer, juste pour expliquer les liens essentiels qu'ils ont avec les éléphants. Mais ils les chassent. Mais cette chasse-là, elle est considérée totalement criminel. Par contre, la chasse au trophée, qui c'est un échange d'argent pour chasser un éléphant, est totalement tolérée. Sinon, bien vu par des grandes ONG de protection de la nature.
Et aujourd'hui, un parc, ça ressemble à quoi? Alors, tu dis, il peut y avoir quand même de la chasse dedans. Il y a des clôtures, il peut y avoir des, je sais pas, des lodges de tourisme. À quoi ça ressemble aujourd'hui?
Oui, ça aussi dépend beaucoup des pays et des contextes. Comme j'ai dit, j'ai un généralisme, mais je suis très au courant des différents. Alors, je vais vous donner un exemple très clair pour moi, Congo, et après un autre au Kenya, comme ça, c'est vraiment deux modèles différents. Donc, Congo, on a un grand parc Ojala. Donc, c'est un parc, il n'est pas marqué il n'y a pas des barrières. Mais il n'y a pas de barrières physiques. Et je tiens à dire ça parce que les bacas qui habitent dans ces endroits depuis des temps, depuis des générations, ils savent très bien quelle est la barrière du parc. Parce que quand ils la dépassent, ils vont être chassés, violés, torturés. Donc il n'y a pas de barrières physiques, mais les barrières, elles sont là. Et par contre, les bacas, donc, tout ça se passe au baka. Les parcs sont gérés directement par une ONG appelée African Parks, qui gère, si je ne me trompe pas, 20 millions d'hectares en Afrique. Et donc, c'est une surface comme le Sénégal. Donc, c'est une grande ONG, plein d'argent. Dans son conseil d'administration, il y a les princes Harry d'Angleterre. Et donc, eux gèrent les parcs. Les bacas sont interdits d'entrée. Mais à l'intérieur du parc, on a des loges pour les touristes riches. Donc, ils peuvent y aller à profiter de la nature soi-disant sauvage qui a été faite sauvage en expulsant les peuples autochtones. Donc, ça, c'est au Congo. Donc, il n'y a pas de barrière. Par contre, au Kenya, dont on a un autre modèle, donc on a des conservatoires privés, ça s'appelle conservatoire conservancy, j'espère que le mot en français est correct. Donc c'est vraiment des riches qui ont reçu les terres du gouvernement britannique pendant la colonisation, qui ont des espaces privés avec des animaux sauvages qui sont importés la majeure part du temps. Ils ont des loges de luxe, donc vraiment on parle des milliards d'euros par nuit. Et là, les gens, ils reçoivent aussi des fonds au nom de la protection de la nature, reçoivent des fonds des ONG. Donc c'est considéré vraiment une aire protégée. Et les gens, ils payent pour aller là-bas. Et là, il y a vraiment des barrières, des fois électriques. Et donc la chose qui est vraiment étonnante, je raconte ça parce que ça m'a fait vraiment mal au cœur. Alors, les sociétés pastorales qui habitent autour de ces conservatoires au Kenya, sont des sociétés pastorales comme les Maasai, les Borana, les Samburu. Et donc, ils sont des moutons ou des vaches, souvent des vaches, qui ont besoin de manger de l'herbe pour pouvoir vivre. Donc, ils ont besoin des herbes, ils ont besoin des pluies. Ce sont des sociétés très touchées par les changements climatiques, même s'ils sont très résilientes parce qu'ils bougent, donc ils sont nomades. Et ce qu'on voit, c'est que pendant la colonisation et après la Première et Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques ont accaparé les meilleures terres, les plus fertiles. Et aujourd'hui, ils sont irrigués de manière électrique. Et donc, ils ont vraiment beaucoup d'herbes. Et on voit juste à côté la désertification de la terre, des sols, à cause du changement climatique. Et les peuples autochtones, ils sont... Et la barrière, non, électrique. Et eux, ils portent leurs animaux qui regardent de l'autre côté de la barrière électrique qu'il y a l'herbe qu'ils pourraient manger, mais ils ne peuvent pas manger. Et leurs vaches, ils sont toujours plus maigres. Ils sont en train de mourir. Et donc, c'est étonnant. Ça, c'est vraiment l'image plus claire d'aujourd'hui, la protection de la nature. Donc, les riches, ils payent pour avoir leur nature sauvage, pour la visiter, la voir. Et les pauvres, ils payent les conséquences.
Et tu dis que c'est un apartheid vert.
Oui, Eh ben, je pense que j'aurais pas, c'est pas une idée à moi, les mots. Je l'avais déjà lu, je pense que c'était la directrice des Auckland Institute qui avait utilisé ces mots. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est, je pense que peut-être que ça semble très fort, mais il est pas. Il faut utiliser les mots juste pour décrire la situation. Ouais.
Alors, t'as parlé tout à l'heure d'exactions aussi qui sont commises hein, contre ces peuples. Est-ce que tu peux donner des exemples dans le livre? Tu donnes plusieurs exemples individuels, en fait, de personnes qui ont été tuées, par exemple. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui se passe concrètement?
Oui. Je pense que si je faisais ça, ce travail, j'aurais pas cru à les choses que je raconte. Parce que on ne peut pas croire que les documentaires qu'on regarde à la télé sur la nature sauvage ou que nos vacances en safari, ils peuvent être même indirectement responsables des histoires que je raconte dans mon livre et que j'ai pu moi-même recueillir pendant 10 ans de travail. Mais c'est vrai, donc je me suis vraiment assise à côté de ces personnes et j'ai recueilli ces témoignages. Et on parle vraiment des violences extrêmes. En général, les violences, ils sont faites par les gardes du parc. Donc, ces endroits, comme je vais vous expliquer, des fois, il n'y a pas des barrières, des fois, il y a des barrières, mais en tout cas, ils sont militarisés. Donc, de plus en plus, à partir des années 2010, quand commence, il y a une histoire qui n'est pas tout à fait confirmée, des liens entre le terrorisme et la chasse illégale des animaux, les braconnages. Donc l'idée, c'était les braconnages, ils financent le terrorisme. Donc avec cette idée qui n'est pas tout à fait confirmée dans les dimensions dont on parle, a été fait si qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de financements pour des États aussi, États-Unis par exemple, pour armer et militariser ces parcs. Donc, on a des gardes du parc qui sont armés, qui sont vraiment entraînés militairement. Donc, il y a de plus en plus des drones, des technologies qui viennent utiliser aussi au milieu militaire pour contrôler ces aires protégées. Et donc, on vérifie beaucoup et aussi, il y a des bonus qui sont payés par ces grandes ONG aux gardes du parc qui arrêtent des personnes ou qui confisquent des choses. Donc, il y a un incentive. Donc, c'est qu'on a montré, nous, et que ces gardes du parc qui sont commis des violences extrêmes contre les peuples autochtones. Donc, des personnes ont été tuées parce qu'elles entraient au parc à recueillir des plantes médicinales, par exemple, et donc, ils ont été tués, considérés des braconniers. Une fois que quelqu'un est accusé d'être braconnier parce qu'il a chassé pour nourrir sa famille, ils sont enlevés, mis en prison, torturés. Vraiment, c'est pas nous qui en a recueilli des témoignages. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'enquêtes indépendantes, des journaux comme BuzzFeed, par exemple, mais aussi les congrès américains. Il a fait une enquête, donc on parle vraiment des instances majeures aux États-Unis, dans laquelle beaucoup de ces cas ont été confirmés, et les WWF, il était mis il a eu une audience au congrès, et des fonds ont été suspendus. Donc vraiment, c'est pas seulement nous, ça c'est des choses qu'on sait. Et aussi, par exemple, nous on a recueilli dernièrement un témoignage d'une femme Baka qui a été violée par un garde du parc avec son bébé de 2 mois. Donc ouais, elle avait son bébé de 2 mois dans les bras, elle a été violée par un garde du parc. Et la chose que je trouve plus horrible de toutes ces histoires, au-delà de la violence, comme je disais, que c'est horrible, c'est qu'est-ce qui se passe après. Parce qu'il n'y a pas... ces grandes ONG de conservation, ils ne disent pas « Oh, on a vraiment, c'est horrible. L'histoire qu'elles racontent ces personnes sont vraies. On va les écouter, on va recueillir témoignages et on va apprendre, on va demander pardon et on va payer leurs soins. » Pas du tout. Souvent, ces ONG de conservation, ils agissent seulement s'ils sont mis en examen par la communauté internationale. Donc, ou si on a la presse, donc ça veut dire qu'il y a des journalistes qui doivent aller là-bas. Les personnes violées, torturées doivent parler une autre fois, raconter leur histoire avec la répétition du traumatisme pour que quelqu'un fasse quelque chose. Une fois qu'on arrive à faire ça, qu'on arrive à obtenir l'une d'un journal sous ces thématiques, alors la ONG en question va faire quelque chose. Et souvent, c'est on va faire une enquête qui dure 2-3 ans. Et quand tout le monde a oublié, on va dire « Oups, ça c'est arrivé ». Du coup, on va simplement, dans les meilleurs des cas, virer les gardes du parc. Et c'est tout. Alors que ce n'est pas un problème particulier, c'est un problème systémique. Si on est en train de témoigner, de recueillir des témoignages de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est dans beaucoup de parcs différents, c'est clair que ce n'est pas un cas, un garde du parc qui a mal agi. C'est un problème systémique. Et souvent, les personnes sont totalement laissées. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, on vire les gardes du parc, c'est tout. Donc, il n'y a pas des paiements, des soins de la personne, il n'y a pas de compensation, et il n'y a pas de pardon, il n'y a pas des on vous écoute, on est vraiment désolé, on va faire différemment. Et surtout, il n'y a pas de restitution des terres. Donc, ces peuples, ils continuent à être expulsés des parcs, comme avant. Cette fois-ci, peut-être, sans les gardes du parc, il a torturé la personne. Mais il y a des sortes qui pourraient faire la même chose.
Oui, ça peut même être justifié. Alors, pas forcément la violence, mais en tout cas de dire, bah oui, mais c'était des braconniers. Et là, t'en parles aussi dans ton livre de la différence qui va être entre braconnage et chasse. Où en fait, finalement, bon, c'est des gens qui chassent pour leur survie, ce qu'on appelle les braconniers. Et pourtant, c'est très, très, très présent dans nos imaginaires que braconner, c'est vraiment très, très mal et c'est beaucoup plus grave que la chasse.
Oui, en même temps, même si c'était vraiment des braconniers, bah, rien justifie la violation de droits extrêmes. On n'est pas dans l'Argentine des années 70 dans laquelle la torture est bien vue. Et c'est une politique gouvernementale. Donc, je dis ça parce que vraiment, ça m'étonne. Des fois, les gens qui disent, bah, bon, c'était un braconnier. Même si c'était un braconnier, ça ne s'est fait pas comme ça. Et dans notre pays, nous, en France, on ne ferait pas ça. Donc, pourquoi l'Agence française de développement soutient des projets à l'étranger dans lesquels ce type de choses arrivent? Donc, ça, c'est une question à nous poser. L'autre question, c'est vraiment que, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi-disant braconniers, donc ils pratiquent vraiment du braconnier, c'est des personnes pauvres, dans des contextes dans lesquels il n'y a pas d'autre choix. Et même si ce n'est pas, comme j'ai dit, mon sujet, je tiens à dire ça parce que c'est des fois, notre jugement chez nous, elles sont très faciles. Mais l'autre chose, c'est vraiment qu'est-ce que c'est les braconnages et qu'est-ce que c'est la chasse. Alors, en sachant, comme je disais, que les peuples autochtones qui sont chasseurs-cueilleurs, pas tous les peuples autochtones le sont, ils pratiquent la chasse, mais ils les font depuis des générations. Ils n'ont pas épuisé leurs ressources. Ils savent très bien qui chasser, comment les chasser. Ils ont un respect énorme pour les animaux. Ils font des rituels et ils pratiquent, comme j'ai dit, une chasse soutenable dans laquelle ils savent très bien que s'ils vont chasser tous les animaux, ça ne va pas marcher. Donc, il y a des règles très précises sur comment chasser et pourquoi. Ce n'est pas une chasse faite par hasard, comme ça qu'ils vont chasser dans la nature quand ils sont femmes. Donc, ça, c'est vraiment un mythe raciste. Ils ont vraiment des systèmes culturels très complexes. Et les terres dont aujourd'hui, nous, on va implanter des parcs, c'est des terres dans lesquelles ils pratiquent la chasse. Et honnêtement, je pense que ce n'est pas à nous d'aller leur expliquer comment faire les choses. Mais pour moi, la contradiction, la chose qui s'est voulue vraiment plus intéressante, c'est comment on peut tolérer, je parle des grandes organisations de protection de la nature, comment on peut tolérer la chasse quand elle est payante, elle est pour sport, elle est pour faire des photos. Et comment on peut la tolérer et la pratiquer? Parce que, comme je dis, plein des présidents du WWF international pratiquaient la chasse et c'est totalement bien vu. Les aristocrates, c'est bien fait. Donc, ils payent pour les faire. Les vacas, du coup, ils ne peuvent pas payer et ils ne payeraient pas parce que ça, c'est un concept totalement étrange. Et eux, ils sont mis en prison pour chasser, pour manger et pour raisons rituelles. Et par contre, la chasse au trophée, elle est légale dans plusieurs de ces pays. Donc, c'est vraiment une contradiction que je n'arrive pas à comprendre moi-même.
Et au niveau financier, est-ce qu'il y a des gens qui se font de l'argent sur ces parcs? Est-ce qu'il y a un bénéfice financier, par exemple le tourisme?
Oui, alors il y a les tourismes, bien sûr. Alors, il y a aussi le fait que les grandes ONG de protection de la nature, ils reçoivent des fonds, comme je disais, de nos impôts. Hein, l'Agence française de développement, ils donnent des sous au WWF, mais pas seulement, pas directement au WWF, mais au parc pour gérer les choses. Ça dépend des contextes. Ils diraient qu'ils ne font pas d'argent pour ça, sur ça, que c'est pour gérer les parcs. Mais il y a quand même, du coup, bien sûr, de l'argent qui arrive des grands donateurs à ces ONG pour pouvoir gérer les parcs. Il y a aussi les touristes, l'activité, bon, ça c'est vraiment pour les profits du touristique, qui est fait jamais. Donc les gens ils disent, bah, ça donne du travail aux peuples autochtones, pas du tout. Ça les enlève de leurs terres, ils perdent leur autosuffisance, ils ne peuvent plus manger et pratiquer les choses qu'ils faisaient avant. Donc ils sont obligés à travailler pour les secteurs touristiques comme chauffeurs. Ou à pratiquer leur danse rituelle pour de l'argent. Ça, c'est pas vraiment la chose qu'ils voudraient faire. Et donc, les touristes sont souvent gérés par des très pauvres personnes avec beaucoup de profits. Mais il y a aussi des parcs, des aires protégées, ce ne sont pas des parcs, dans lesquels la chasse est tolérée et c'est un business aussi. Mais il y a aussi un nouveau business qui c'est celui des crédits de carbone. Aujourd'hui, depuis des années, on dit que les parcs naturels, ils protègent la forêt et du coup, ils évitent la déforestation. Donc, c'est surplus des carbones qui n'est pas relâché dans la forêt à cause de la protection pour être vendu comme crédit de carbone. Et ça veut dire compenser les émissions du Nord global, souvent les émissions que nous faisons en brûlant vraiment du pétrole. Dans les marchés du carbone. Donc ça, c'est l'idée. En sachant que la compensation, ce n'est pas un truc simple et la majorité des projets de crédit de carbone sont vraiment des fraudes. Et ce type de projet, en général, ils ne compensent rien du tout. Donc, les peuples autochtones sont expulsés de leurs terres, qui sont gérées de manière soutenable en les protégeant, pour nous faire compenser à nous nos émissions, sans les faire compenser du tout. Et en faisant gagner beaucoup, beaucoup d'argent aux ONG qui gèrent ces parcs et aux entreprises multinationales qui sont en train de retarder la transition énergétique et écologique en disant, bah, nous, on compense nos émissions.
Oui, parce qu'il y a des liens forts. Bah, tu disais, par exemple, des présidents de WWF qui étaient auparavant à Coca-Cola. Il y a des liens forts entre ces ONG et les grandes entreprises qui sont largement responsables de la catastrophe écologique.
Bien sûr, ces modèles de protection de la nature profitent qu'aux entreprises multinationales. Alors, imaginez-vous qu'à la place de dire, on va protéger une aire au Congo, là-bas, du coup, je suis tranquille, la biodiversité, elle reste là-bas et on protège et on compense nos émissions. On commence à critiquer vraiment et à donner des sous pour modifier notre mode de vie, arrêter les subventions aux compagnies d'extraction et minérières, et pétrole, etc. On commence vraiment à faire des changements dans notre industrie alimentaire. Et les WWF, à la place de prendre de l'argent du Coca-Cola, ils disent « Coca-Cola, il nuit la planète ». Donc, on imagine les pouvoirs qu'il y a aujourd'hui les WWF. WWF, il ne fait pas ça, il prend de l'argent des grandes entreprises multinationales. Il a dans son conseil d'administration, et il y en avait dans les passés des figures qui sont liées à ça, la présidente récemment démissionnée, il était avant à L'Oréal. Donc, c'est vraiment c'est vraiment une ONG qui ne va pas critiquer les grandes multinationales qui sont vraiment la racine du problème. Et c'était toujours le cas depuis les débuts. Ces modèles de protection de la nature, elle est née pour conserver des aires soi-disant intactes pour les Européens, pour aller en tant que touriste aller voir. C'est pas un modèle qui est né pour vraiment protéger les racines, la nature et critiquer vraiment la racine du modèle d'extraction dans lequel est basé notre modèle économique, notre mode de vie et notre économie. Sinon, ça serait pas tellement puissant. Donc, si aujourd'hui on entend des pubs, des doublés partout et c'est parce que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est vraiment pas une ONG critique. Elle n'est pas du tout apolitique, c'est l'opposé. Elle est vraiment politique, mais elle est très vraiment politisée, mais du côté à des personnes qui ont leur intérêt à que tout reste comme est aujourd'hui. Donc, si vraiment on voudrait lutter pour une écologie qui soit vraiment écologique, l'écologie ne peut pas être apolitisée. L'écologie doit être politique. Les modèles des changements qu'on propose pour notre planète, et un modèle politique, parce qu'il est lié à notre modèle économique, à notre modèle sociétal. Donc, on ne peut pas continuer à faire semblant que rien ne s'est pas. Du coup, on va protéger une aire là-bas, riche en biodiversité, et nous, on reste chez nous à faire comme si rien ne s'est pas. Ça, ce n'est pas possible. Oui.
Est-ce que, du coup, le capitalisme a besoin de ces aires protégées pour faire un peu diversion, finalement?
Moi, je pense que, oui. Alors, plus que le capitalisme, que c'est quand même un concept abstrait, je pense que c'est vraiment des... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des pouvoirs politiques, des entreprises qui ont besoin de ça, parce qu'il y a eu un changement quand même de la société civile. Les gens, ils sont de plus en plus inquiets pour l'environnement. Et donc, ces entreprises, ils ont beaucoup investi dans des coalitions pour le climat, dans des coalitions, je ne sais pas quoi, pour l'environnement, qui proposent des solutions qui sont totalement des fausses solutions. Et ça, c'est clair. Aujourd'hui, quand on prend un vol pour je ne sais pas où, et ils nous disent qu'ils sont en train de compenser nos émissions dans une forêt du Congo, moi, je regarde toujours de quel projet il s'agit. C'est souvent un projet qui a été critiqué parce qu'il ne produit pas d'effets sur le climat et parce que il y a eu des violations des droits de l'homme. Donc, c'est toujours la chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est qu'on fait vraiment payer encore toujours les mêmes personnes qui n'ont rien contribué au changement climatique, qu'on contribuait très peu au changement climatique et qui sont les plus vulnérables pour que nous, on puisse continuer avec notre modèle de vie. Et ce n'est pas toi et moi qui ont fait ça, ce n'est pas l'individu. Et ça, je tiens à dire parce que moi, je ne crois pas trop... Alors, c'est important qu'on fait des changements à niveau individuel. Mais je pense que c'est trop facile pour les entreprises multinationales de dire « Ah, mais oui, c'est toi-même que tu manges de la viande ou que tu prends de la viande. » Quand on a fait, c'est pas seulement des changements individuels, c'est vraiment un modèle qui est soutenu par les politiques en place, par les gouvernements, par les multinationales, qui maintiennent ce système en nous donnant l'illusion avec des fausses solutions au changement climatique, mais aussi avec ces types de parcs que la nature sauvage « Ah oui, regardez, vous pouvez payer. » Ça, vous pouvez payer pour aller en Tanzanie, du coup, vous volez donc l'avion, changement climatique, vous allez là-bas, dans des terres dont les peuples autochtones sont expulsés au nom de la protection de la nature, donc vous logez dans un loge de luxe qui consomme de l'eau et de toutes les autres choses pour protéger la nature. Ça, c'est vraiment une idée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient à ça. Et donc, je pense que ça, c'est tombe très bien pour les multinationales parce que ça évite des votes et des changements qui sont réels et sont structurels.
Et il y a des projets qui tendent à vouloir augmenter le nombre d'aires protégées, par exemple avoir 30% de la superficie terrestre qui soit protégée. Qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est aussi, il faut regarder toujours qui propose des choses. Donc, alors, en théorie, on se dit à 30% de la planète en tant qu'aire protégée, c'est génial. Mais quand on regarde qui propose ça, on voit les coalitions Capital Coalition, dans laquelle ils font partie, je ne sais pas, Microsoft, Bezos, ils ne font pas partie de cette coalition, mais ils soutenaient les 30%. Donc, on a vraiment les plus grands pollueurs de la planète qui soutiennent les 30%. Donc, je me pose la question pourquoi. Et en fait, l'idée de base, c'est on va créer des aires protégées où, dans les sud du monde, en expulsant de leurs terres paysans, sociétés pastorales, chasseurs-cueilleurs, donc les gens qui habitent de la terre, qui sont les moins responsables du changement climatique. Et nous, dans les 70%, on va continuer à faire comme si rien ne se passe. À la place de proposer des choses qui n'ont plus de sens. On veut combattre vraiment la perte de biodiversité. Alors, il faut lutter contre il faut faire un changement des fiscalisations, donc les impôts, la distribution, l'équité. Il faut faire des changements et des règles précises et obligatoires pour les entreprises multinationales. Pas de la compensation, des règles, réglementation classique environnementale. Ça, c'est pas possible à faire. Ça, c'est possible à faire. Il faut changer notre industrie de l'alimentation. Donc, il y a un million de choses qu'on puisse faire à la place de dire, on va occuper la terre, créer des îlots, notre nature sauvage pour qu'on puisse aller en vacances. C'est la même chose de créer des îlots climatisés au milieu de la catastrophe climatique. Donc, on va rien faire pour éviter les changements climatiques, mais on va créer des shopping centers, des shopping malls ou des îlots climatisés pour que nous, on puisse aller là-bas nous rafraîchir. C'est pas ça la solution.
Oui, et en plus, ça s'attaque pas, comme tu disais, au réchauffement climatique. Et donc, même les 30% d'air protégé, ils vont être touchés de toute façon par le réchauffement climatique. Ils sont déjà, d'ailleurs, touchés par le réchauffement climatique.
Ça, c'est une chose que les gens, des fois, quand je parle avec des personnes, ils ne comprennent pas qu'un parc, il peut mettre même des barrières, mais il ne peut pas arrêter les changements climatiques. Les changements climatiques, qui est écossais aussi pour aller visiter ces parcs-là, il va quand même toucher à ces biodiversités parce qu'il abîme les sols, à cause des pluies. Déjà, on les voit très bien au Kenya, les changements climatiques. Et c'est déjà un endroit qui est sensible aux hautes températures avec les changements climatiques. On est en train de vraiment bouleverser la vie, pas tout le monde de notre planète, et aussi des beaucoup, beaucoup de sociétés pastorales.
Qu'est-ce que vous demandez? Alors, vous demandez la fermeture des parcs, qui est plus ces aires protégées?
Nous, on demande pas seulement la fermeture des parcs, on demande une chose très précise, que c'est la reconnaissance des droits territoriaux des peuples autochtones. Ces parcs-là, ils doivent être des terres autochtones gérées par les autochtones. On ne demande pas, on ferme les parcs et alors, parce que ça c'est une chose que le WWF dit, alors la compagnie minière va venir à exploiter. En sachant que souvent la compagnie minière est partenaire minière au... forestiers et partenaires des saisons EG. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution est vraiment la terre va passer aux peuples autochtones qui vont la gérer comme ils savent le faire. Toute la documentation qu'on a disponible aujourd'hui, surtout qui vient de l'Amérique latine, où les droits des peuples autochtones ils sont reconnus dans les constitutions, dans les lois, c'est que la démarcation des territoires autochtones fonctionne comme barrière contre la déforestation. On a beaucoup moins de déforestation dans les territoires autochtones que n'importe où, y compris les aires protégées. On a beaucoup plus de biodiversité dans des territoires autochtones que partout dans des autres endroits, y compris les aires protégées. Donc, la solution est là. Elle est très claire. Donc, ça manque vraiment la volonté politique et surtout la pression d'Occident. Moi, je dis toujours, si l'AFD, à la place de soutenir ce type de projet qui ne marche pas, soutient la démarcation des peuples autochtones, l'AFD, comme les WWF, comme toutes ces associations et organisations et gouvernementales et non gouvernementales qui ont de l'argent, si à la place d'avoir seulement en tête les gorilles, et pas même seulement les gorilles, et les intérêts économiques, ils avaient vraiment à cœur l'avenir de la planète, alors ils soutiendraient les peuples autochtones. Ne pas les faire, c'est un choix politique.
L'AFD, c'est l'Agence française du développement. Oui. Est-ce que vous faites du lobbying un peu justement auprès de l'Agence française du développement ou d'autres structures, l'Union européenne, etc.?
Oui, bien sûr. L'Agence française du développement, c'est terrible au niveau des réponses et transparence. Par ailleurs, je ne savais pas avant de me lancer des sous. C'est vraiment un sujet et que je pense que les Français devraient savoir. C'est payé par nos impôts et par contre, transparence zéro. Ils disent une chose, ils font une autre. Ils ne donnent jamais des documents pour montrer qu'est-ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas tout à fait, je pense, honnête. Dans les autres instances, beaucoup plus transparentes comme l'Union européenne, la Commission européenne, beaucoup... Tout est clair, on peut demander des documents, on les regarde. Par contre, on sait très bien qu'ils financent des projets qui ne sont pas bien, on se réunit, on fait des actions qui sont, par exemple, on demande à nos sympathisants d'envoyer des emails, on fait des actions très concrètes. Ça a apporté quelques changements dans le sens qu'on a eu, par exemple, l'Union européenne a décidé de faire des enquêtes sur leur projet, de mettre en place des règles pour le respect des droits de l'homme, des droits humains dans les aires protégées et dans des projets de conservation. Donc, il y a eu des changements au niveau théorique. Et c'est le cas même aux États-Unis, donc il y a eu vraiment des changements. En France, c'est un peu plus dur. Parce qu'en France, les gens, ils pensent toujours de faire du bien. Donc, ils ne se rendent pas compte des choses qu'ils font. Et donc, on a eu des changements à niveau théorique, mais ça reste quand même difficile. Donc, en sachant qu'une chose qui est très importante, c'est que nous, notre modèle des changements, c'est vraiment est basé sur les soutiens des personnes. Donc, plus des personnes nous suivent, plus des personnes sont inscrites dans nos newsletters, plus email on envoie vraiment dans notre campagne aux personnes qui financent ces projets, plus d'impact on a. On organise aussi des manifs, on donne des actions vraiment en présentiel chez l'AFD, par exemple. On l'a fait, je pense, l'année dernière. Donc, on fait des choses physiques, mais on a besoin vraiment des personnes qui participent. Donc, ça, c'est important. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'on n'est pas une ONG qui va faire des changements, comme on regarde un changement de mentalité, on ne va pas changer tout dans un an. Donc vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, après 14 ans, un peu moins, oui, des campagnes, sur cette campagne-là, 12 ans, on a vraiment un changement à niveau théorique. Donc on a vraiment obtenu beaucoup, beaucoup, beaucoup des enquêtes des parts du gouvernement, beaucoup des lignes guides, il y a aussi une loi qui a été écrite aux États-Unis. Mais dans les terrains, la chose qu'on remarque, c'est qu'il a eu une diminution de la violence physique à cause de toutes ces guides et mais c'est toujours les mêmes ONG qui reçoivent de l'argent. Donc les WWF, ils continuent à être un des plus grands capteurs des fonds. Donc même si l'Union européenne a bien sûr reconnu qu'il avait au départ qui ont été créés sans le consentement des peuples autochtones, qu'il avait eu des violences, et du coup ils ont fait des choses pour essayer de changer ça, ils continuent à travailler avec un partenaire qui dans les passés s'est montré pas respectueux des droits de l'homme et responsable des grosses violations des droits de l'homme. Et ça a été prouvé par plusieurs enquêtes. Donc il n'y a pas eu un changement de ses côtés. Et les plus grands changements, c'est vraiment qu'on voudrait vraiment faire arriver, c'est qu'à la place de soutenir le WWF avec nos impôts, il devrait soutenir la démarcation des territoires autochtones. Donc faire de la pression sur les gouvernements, donner de l'argent à organisations qui proposent de faire ça. Et ça, vraiment, c'est très dur à changer.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque
Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Un, c'est la mentalité. Une mentalité qui dit on ne peut pas vraiment faire confiance aux ONG qui ne sont pas européens. Et ça, c'est vraiment raciste. Donc, l'idée des fonds, c'est on va donner notre argent, WWF, on les connaît. Ils savent écrire les projets. Donc, ils savent... c'est les mêmes personnes que nous. En fait, des fois, c'est eurodéputé qui a... Aujourd'hui, eurodéputé, avant, il était WWF. Les gens aux États-Unis, c'est vraiment... Moi, j'étais choquée quand j'ai rencontré des membres du Congrès. Bah, la majorité avait travaillé avant pour des grandes ONG de protection de la nature. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire en français, revolving doors. C'est souvent les mêmes gens qui travaillent, qui changent d'un travail à l'autre dans les mêmes...
Ouais, je ne sais pas comment on dit non plus, mais qui restent dans le même cercle.
Ça, dans le même cercle, donc c'est les mêmes personnes. Et sinon, c'est les mêmes personnes issues des mêmes écoles. Donc, peut-être qu'ils sont tous allés à Sciences Po. Et moi, je suis aussi prof de Sciences Po, donc je l'ai dit avec... mais ils sont tous allés aux mêmes écoles, donc les grandes écoles. Et du coup, ils se connaissent. Donc, il y a une question des mentalités à pas voir ces personnes comme... C'est vrai que si on parle avec des employés particuliers, donc je parle souvent en général de WWF, mais il y a des gens qui travaillent qui sont géniaux, brillants et magnifiques. Donc, on a du mal à penser que tout ça est créé ou géré par, dans une manière qui n'est pas bien. Mais donc, il y a ça, donc une question des mentalités, de vraiment se rendre compte que la chose que les WWF disent, ce n'est pas la chose qu'on fait dans les terrains. Et il y a une question des méconnaissances et vraiment des manques de terrain. Il faut aller là-bas pour voir qu'est-ce qu'on finance. Et quand souvent l'AFD ou les directeurs de l'AFD, ils décident...
L'Agence française du développement,
oui,
je précise
pardon,
pour... Non, mais pour les,
oui,
pour les personnes qui nous écoutent.
Elle a le même nom d'un groupe d'extrême droite, des oui, partis d'extrême droite en Allemagne, du coup les gens... Ouais, quand l'AFD, l'Agence française du développement, visite un parc qui finance, c'est un peu les rois qui descendent dans leur territoire à voir. Donc tout est préparé, ils vont juste dans les villages où les gens ils vont dire que tout va bien. Donc il manque des terrains. Pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils pensent les personnes. Des fois, je suis étonnée parce que la Commission européenne, je pense qu'ils sont des fois les meilleures intentions du monde. Mais les gens qui sont en charge de l'Afrique, comme ils les appellent, ou en charge, même au ministère des Affaires étrangères, personne en charge du Congo, il n'était jamais dehors de Brazzaville. Des gens vraiment super intelligents avec les meilleures intentions. Mais il manque les terrains, il manque les connaissances. Et donc là, la mentalité, la manque de terrain et bien sûr des intérêts économiques. Parce que si on commence à faire de la pression pour les vraies solutions, alors la compagnie des forestiers, souvent européens, ne peut pas continuer à faire ce qu'elle veut. Et donc, on a vraiment beaucoup des intérêts. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est quand même un continent dans lequel la France il a beaucoup, beaucoup d'intérêts économiques. Donc, il y a plusieurs choses.
Alors, je termine toujours par une question. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Qu'est-ce que nous, on peut faire ?
C'est une très belle question que les gens ils aiment bien me poser. Avant tout, moi, je pense que il faut s'informer. Et ça, je pense que c'est un peu mainstreaming dire ça, mais je pense que quand même, c'est très important. Je crois encore que la conscience et être conscient des choses, ça peut avoir des changements. Donc, je vous invite à s'abonner à notre newsletter parce qu'on a chaque mois, on produit, donc je vous disais, j'ai donné des cours à Sciences Po, donc on a transformé notre cours à une newsletter que les gens elles peuvent recevoir une fois par mois et sur l'histoire de la conservation et les enjeux politiques de la conservation. Donc nous, on voit abonnés dans notre newsletter, nous on propose beaucoup, beaucoup, beaucoup des actions. Soit des emails envoyés, mais soit aussi vraiment des actions en personne à faire. Et donc ça, c'est important. L'autre chose, et aussi dans nos réseaux sociaux, si les gens ne veulent pas recevoir des emails, on propose des actions concrètes à faire. Après, l'autre chose, c'est arrêter de donner de l'argent à ces grandes ONG, c'est renseigner sur des autres projets possibles. Votez bien. Et ça, c'est aussi important. Demandez des changements à notre politicien. Et surtout, je tiens à cœur ça, à dire ça. Nous, on finance ces modèles de protection de la nature. On les finance avec notre tourisme. On les finance avec notre don à ONG. Et on les finance avec nos impôts. Ces modèles, là-bas, ils n'existeraient pas sans nous. Ce n'est pas que nous, alors c'est les gouvernements africains, congolais ou des gouvernements en Afrique. Ces gouvernements-là, ils sont pas souvent les moyens, pas dans tous les pays, mais pas souvent les moyens, de maintenir ces aires protégées. Dans ces États, si nous, on ne va pas comme touristes et si nous, on ne les finance pas. Donc, on peut, avec nos impôts et avec notre tourisme, financer des autres choses. Ça, c'est possible à faire. Il faut vraiment se mobiliser pour ça. Donc, je pense qu'on a, vraiment un rôle très, très important à jouer.
Merci, Fior Longo. Donc, je rappelle que tu es anthropologue, directrice de Survival International France et tu as écrit « Décolonisons la protection ». Oui, c'est bon. Décolonisons la protection de la nature. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Uriel pour la modération. Merci Nayane pour la réalisation. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. C'est que le début de la journée. Nous, c'était le dernier écoloscope de l'année. On se retrouve en septembre. Il y aura toujours beaucoup de choses à dire sur l'écologie, surtout dans cette année qui va être un petit peu cruciale, l'année qui commence. Au poste, ça continue ce soir à 20h avec Mathilde Panot de la France Insoumise pour parler de 2027. Faire mieux, mais comment et avec qui? En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.
Mes amis, nous sommes sur opost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opost, opost.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Opost.
J'encourage, faites un don à Opost. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous au poste. Adonnez-vous au poste.
Et faites des dons à Opost. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opost. Il faut donner de l'argent pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr. Opost.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous!
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à au poste, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.